Okay. 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 On va la faire courte. Off court. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs, coach, bizutage rookie, vision politique et sociétale, et j'en passe. Off court. Présenté par Smooth Smooth, qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. 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 Off Court.
Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, c'est simple. On va parler d'une autre pratique du game. On va parler du 3-3. Et vous le savez bien, vous êtes bien placé pour savoir que la France est très bien représentée dans le 3-3, que ce soit chez les garçons, mais plus encore chez les filles. J'ai envie de le dire plus. Pas de disparité, mais il faut le dire. Et il y a un quator de feu qui tourne sur tous les tours, sur tous les tournois, sur tous les masters. On le connaît déjà, Guapo, Pagé, et il y en a encore deux autres. Merde, j'ai un trou, mais c'est pas grave, je leur fais un big up. Aujourd'hui, j'ai en face de moi la joueuse qui est souvent définie par ces trois lettres, MEP. Un sacré bout de femme qui en impose énormément sur le terrain, et tout ça, je veux un big up pour Marie-Ève Pagé. Comment vas-tu?
Salut Moustapha, ça va bien, merci. Merci de m'accueillir.
On te fait une intro comme il se doit. Hein. Je suis désolé, j'en mets beaucoup, mais c'est sincère.
Écoute, ça fait partie du show, c'est le 3-3, c'est plus
que le 3. Voilà, clairement, le 3-3, c'est un show quand même. Toute la mise en place, c'est dingue quand même. C'est kiffant de voir ça de la télé.
Ouais, c'est kiffant. Après, je pense que c'est encore plus impressionnant d'être sur place parce que les gens se rendent compte vraiment de la dimension physique. Et de l'impact qu'il y a entre les joueurs quand on est vraiment sur le terrain. Et c'est souvent ce que les gens ils me disent quand ils passent de la télé en vrai. Ils me disent vraiment « ouais, c'est encore plus impressionnant qu'à la télé, quoi ».
Ah, mais c'est clair, vous en donnez à cœur joie. Et j'ai envie de te dire, pas de résultat sans bagarre. Et vous êtes bien, vous vous défendez comme il se doit. Et la preuve, on a c'est pas mal de titres. On a vraiment, vous avez fait une moisson de titres cette année qui est extraordinaire.
Cette année, on n'a pas eu de titre. C'était l'année dernière.
Oui, l'année dernière, autant pour moi.
Ouais. En tout cas, je pense que le basket 3-3, de manière générale, et d'autant plus les filles, on a quand même ramené pas mal de médailles internationales depuis un petit moment. Donc oui, c'est la bagarre. Le niveau augmente d'année en année. Mais voilà, on a toujours le même objectif. Et voilà, on fait tout pour continuer à être au top et à le rester surtout.
Je peux pas continuer le podcast sans vous féliciter. Merci, franchement, avec tout ce que vous avez fait. Et merci pour cette qualification pour les JO. Et je te le dis tout de suite, hein, je veux pas deux autres breloques. On veut l'or. On veut l'or.
Non, c'est sûr. Alors déjà, j'espère pouvoir faire partie de cette aventure parce que c'est pas encore chose faite. Hein. On est 8 joueuses pour 4 places.
Ah, clairement, c'est...
Dans tous les cas, j'espère que peu importe l'équipe qui sera alignée, mais qu'on ira chercher la plus belle des médailles, une médaille. Je pense que peut-être qu'avec le temps, on s'en contenterait, mais c'est vrai que voilà, on a des objectifs très forts. C'est Paris 2024. Et voilà, j'espère que dans un an, à cette même période, j'aurai quelque chose autour du cou. En tout cas.
Ah, on veut te voir en photo avec ce bijou qu'on aime tant. On va parler un peu de ton parcours. Bon, normal, hein, tu sors du 5-5, centre de formation, tout ça. Mais j'ai envie de savoir à quel moment tu as décidé de te faire le switch sur le 3-3.
En fait, le switch, il s'est fait vraiment par hasard. C'était vraiment une opportunité parce que je me rappelle encore en 2017, je faisais partie de l'équipe de France à prime. Mmh. On avait fait les Jeux de la Francophonie à Abidjan. Et en fait, voilà, c'était l'idée de cette équipe-là, c'était de réunir quand même des jeunes filles qui étaient en équipe de France jeune, qui n'étaient pas encore en équipe de France. 5-5A, mais qui avait le potentiel peut-être un jour d'y intégrer. Et le but, c'était de garder cette identité France et de toujours continuer à avoir des compétitions internationales. Et en fait, cette même année-là, donc en 2017, le 3-3 est devenu olympique. Donc la fédération a dû faire des choix, c'est-à-dire que le budget qui était alloué à cette équipe à prime est passé sur le 3-3.
D'accord.
Et donc en 2018, en février, il y a eu un premier rassemblement équipe de France 3-3 avec en fait une revue d'effectifs de la part de Karim Sochu et du coup de Richard Billan qui étaient les deux sélectionneurs à l'époque.
Ouais, je m'en souviens.
Des garçons et des filles. Et en fait, du coup, j'ai été appelée sur ce rassemblement-là et du coup, mon profil a été plutôt apprécié vu qu'ensuite j'ai pas forcément j'ai toujours participé aux grandes compétitions internationales en équipe de France depuis, mais c'est vrai que voilà, ça a été vraiment un peu l'élément déclencheur. J'avais fait déjà une apparition dans un tournoi dans un stage à la Baule, je m'en rappelle, en 2016, où Richard m'avait invité avec Karim, mais comme j'étais en train de passer mes diplômes et mes oraux pour mon CAPES,
professeur de PS à venir.
C'est ça. Et du coup, à l'époque, voilà, je leur avais dit, je veux bien venir avec plaisir sur un week-end, mais c'est vrai qu'après, je pourrais pas être sollicitée sur le début de l'été, parce que c'est généralement là où se joue la Coupe du Monde.
Bien sûr.
Et déjà là, il m'avait dit qu'on resterait en contact. Donc on peut dire que l'aventure, elle a vraiment commencé à partir de 2018. Ouais,
avec tout ce que t'as pu faire, tu vois, tu commences très jeune. Je dis pas que t'es vieille, t'es encore super jeune. Et est-ce que la décision de te dire, je vais te dire au revoir au 5-5, n'a pas été difficile?
En fait, je l'ai pas vu comme ça.
Tu l'as pas vu comme ça?
Non. J'étais. Déjà, j'étais pas appelée en équipe de France 5-5. Mmh. Donc, moi, on me donnait l'opportunité de représenter l'équipe de France, de jouer au basket et surtout de découvrir une discipline en fait dont je me suis découvert une passion pour, que je connaissais déjà d'avant, hein, ceci dit, parce que j'avais déjà fait un championnat du monde universitaire en 2014 et quelques tournois par-ci par-là. Mais là, c'était vraiment l'opportunité, de représenter la France, chose que j'avais déjà faite en jeune, et c'est une opportunité qui ne se refuse pas.
On est d'accord.
Et je me suis jamais dit, je me ferme la porte au 5-5. C'était vraiment, j'ai mon projet, je me concentre sur le 3-3. Et la preuve en est, c'est qu'en 2022, donc l'été dernier, j'ai pu participer à la Coupe du Monde avec l'équipe de France 5-5. Donc j'ai pu basculer d'une équipe de France à l'autre. Là aujourd'hui, évidemment, à la suite de cette Coupe du Monde là, il fallait faire un choix, parce que je pense qu'un an avant les Jeux, il faut arriver à se projeter et se lancer dans un projet, choisir quoi, tout simplement.
Ouais,
c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, la quatrième place à Tokyo, le fait évidemment que j'ai pas du tout le même rôle en 5-5 qu'en 3-3 aujourd'hui, quand on participe à une compétition, on a envie de d'y prendre part totalement. Mm-hmm. Et aujourd'hui sur le 5-5, j'avais un rôle plutôt de joueuse de rotation qui pouvait apporter son expérience et une joueuse de mission. Et alors qu'au 3-3, en fait, il n'y a pas de joueuse comme ça. C'est comme on est quatre et il y a que tout le monde joue, en fait, et a son importance. Et voilà, donc, pour toutes ces raisons, pour prendre une revanche, pour le fait que je m'éclate en équipe de France, 3-3, c'était évident que j'allais me tourner, en tout cas, mon objectif vers Paris 2024. Quoi.
Le choix n'a pas été difficile, le choix, il a été même fait du cœur.
Exactement. Dans tous les cas, c'est toujours un bonheur de représenter la France, que ce soit en 5-5 et en 3-3. Et je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de pouvoir faire les deux aujourd'hui dans ma carrière. Et on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. En tout cas, pour l'instant, je suis focus sur l'équipe de France 3-3.
Ouais, ça se voit. Sincèrement, ça se voit. Moi, il y a un truc qui me marque énormément, c'est ce côté famille qu'il y a entre vous. Je dis vous, mais cette fois-ci dans la globalité, surtout quand vous êtes sur des tournois communs avec vous et les garçons, vous êtes vraiment we are family, j'ai envie de te dire. C'est marrant comment vous déconnez, c'est ce qui renforce vos liens quelque part.
Mais carrément, je pense que déjà dans le groupe féminin, on arrive à avoir cette concurrence très saine, même si on est toutes là pour avoir évidemment
un spot.
La même chose, un spot. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le nombre de compétitions qu'il peut y avoir, on arrive à donner, entre guillemets, un peu à manger à tout le monde, même si c'est pas l'expression que j'aimerais employer.
Non, mais je vois ce que tu veux dire.
Mais on arrive quand même, en fait, plus au 3-3 qu'au 5-5, j'ai l'impression qu'on a besoin, en fait, des unes des autres pour se progresser. Et des fois, quand on est à l'entraînement, c'est plus dur que quand on est en match face à certaines nations qui sont peut-être en deçà de 4 autres joueuses de l'équipe de France. On veut toutes progresser, on a toutes nos objectifs. Donc, en fait, ça nous tire vers le haut. Mais il y a les garçons à côté. Et les garçons, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, en fait, on fait la même chose. On a les mêmes ambitions. Mais en fait, c'est que du bonus entre guillemets entre nous, parce qu'il n'y a pas cette notion de concurrence, parce que on est en concurrence avec un garçon pour être dans l'équipe. Ça n'existe plus, le mixte, ça a duré une année et j'ai pas eu la chance de pouvoir jouer avec ça. Donc ouais, en fait c'est autre chose que ce que tu peux connaître en club ou ce que tu peux connaître en équipe de France 5-5. C'est l'opportunité de, à part aux Jeux Olympiques, c'est vrai qu'il peut y avoir cette fusion fille-garçon, et encore c'est toujours des choses très distinctes. Là c'est vraiment, en fait, on est ensemble, on est une équipe de France mixte certes, mais on a tous les mêmes objectifs. Et voilà, aujourd'hui quand nous on a une médaille et que les garçons n'en ont pas, évidemment on est super heureuses. Mais c'est vrai que quand tu vois nos copains qui sont hyper contents pour nous, mais qui sont déçus pour eux, c'est toujours un sentiment un peu partagé. Alors que par exemple, quand on a fait podium à la Coupe du Monde, on est championne du monde en 2022, les garçons ont le bronze. Mais alors là, c'était la fête.
Ça s'est vu, c'était dingue.
Non, c'était dingue parce que quand ils jouaient leur demi-finale, en plus, on était derrière pour devoir s'échauffer. Mais c'était horrible parce que en fait, on était partagé entre le fait de nous préparer nous dans notre match, dans notre finale, s'échauffer, être concentré, mais en même temps il y avait les copains qui jouent à côté, quoi. Donc on était obligé de suivre un peu, et en plus le scénario a été juste dingue quand ils ont fait prolongation et que ça a duré, que c'était le match le plus long de l'histoire. Hein,
clairement, votre échauffement il a été long du coup.
Votre échauffement, c'était assez long, mais voilà, enfin voilà, c'est des émotions qui sont indescriptibles, et c'est vrai que voilà, il y a certains adages qui disent que quand on est ensemble, ça prend une autre dimension, et là le fait, et là ça se traduit totalement en fait. Avec les garçons c'est autre chose, et c'est, enfin franchement c'est génial de pouvoir partager ça, puis même d'avoir un autre point de vue, parce que eux ils ont peut-être une manière de voir aussi, une autre manière de jouer entre guillemets, des peut-être la focalisation sur autre chose, enfin le focal plutôt. Et du coup, c'est super intéressant et enrichissant, en fait, de pouvoir partager ça avec eux.
Ouais, je vois le délire. Tu as utilisé un terme qui va me permettre de rebondir, c'est les émotions. Tu te rappelles de quand vous avez joué sur Paris?
Oui, je me rappelle.
Je crois qu'en termes d'émotions, est-ce qu'il y avait plus, ou c'est une prémisse des JO?
Ouais, c'est vrai que c'est une prémisse des JO, parce qu'à l'époque on savait pas exactement où est-ce que les Jeux allaient être. On pensait naturellement que ça allait être en fait la répétition générale. Bon, il s'avère qu'on sera pas au même endroit. Ouais. Dans tous les cas, le spot était ouf. Et en fait, au-delà du fait que le spot était ouf et qu'on était à la maison et que le public a été incroyable, il y a eu une histoire derrière ça. Il y a eu tout un été. Et on a eu un été qui était quand même pas facile entre le TQO, où c'est un stress incroyable. On a une semaine pour se qualifier, pour se préparer pour cette qualif. Mm-hmm. On arrive à le faire. Après, on a un mois et demi pour se préparer pour les Jeux. On a eu des changements dans notre équipe qui n'ont jamais été simples, parce que y a une fille qui se qualifie pour le TQO, mais qui ne fait pas les Jeux. Une fille qui espérait être pour le TQO et qui finalement fera les Jeux. Enfin, ça a été pas facile pour.
En termes de gestion, c'était très très compliqué.
C'était très compliqué d'avoir aussi une stabilité, donc tout le temps être sous pression, tout le temps. On fait quatrième au jeu, donc un échec, c'est très douloureux. On fait la prépa Coupe d'Europe, on perd notre kiné qui malheureusement décède dans cette préparation sous nos yeux, donc des choses quand même traumatisantes. Mmh. Et on perd en demi-finale, donc on a l'impression de revivre un peu le remake de Tokyo. Et au final, on arrive à trouver des ressources au plus profond de nous-mêmes, où on arrive à avoir cette médaille de bronze. Et franchement, quand j'y repense, le bronze, là, il valait beaucoup, quoi.
Ouais, clairement.
J'étais ravie de l'avoir parce que c'est venu contraster un peu l'été, c'est venu récompenser un petit peu toutes les émotions qui n'ont pas été faciles à gérer. Et c'est une manière de finir l'été en beauté. Et ça. Et le fait de partager ça avec notre public, même si on aurait évidemment leur offrir l'or, parce que c'est ce qu'il valait, c'était quand même incroyable.
C'était incroyable, mais moi j'étais dans les tribunes, hein, je te le cache pas. J'en ai perdu ma voix, parce que l'ambiance était dingue. Comment vous donniez sur le terrain, c'était limite, on vous portait, on avait envie de vous porter pour que vous alliez. Et là, ce bronze-là, pour nous, il avait une valeur d'or. Elle avait vraiment une valeur d'or. On était vraiment fiers de vous. C'était dingue. Et c'était comme je t'ai dit, moi, j'arrivais sur la pointe des pieds parce que je me suis dit, comment va être l'ambiance? Comment va être l'ambiance dans les tribunes? Est-ce que on va se retrouver en mode concert d'opéra et on va être là à applaudir du bout des doigts? Mais c'était un bordel monstre.
Oh non, c'était incroyable. Il n'y avait pas, de restriction de bruit. Hein. Je pense que là, les voisins pouvaient se plaindre. Hein. Clairement, non, c'était fou. Parce qu'en fait, je pense que les Jeux ont été vraiment un tremplin pour cette discipline qui a été connue un peu du grand public. Moi, je me rappelle, on était quand même la troisième discipline la plus regardée, mm-hmm. avec 5 millions de personnes qui nous ont encouragés et vus et qui ont vibré avec nous et qui ont partagé aussi notre douleur avec nous. Et c'est fait. Et c'est vrai que voilà, quand on se rend compte que la Coupe d'Europe, elle était un mois et demi après, au final, je pense que les gens, ils avaient encore en tête, on a surfé un peu sur ces résultats-là.
Bien
et
sûr.
Le fait de pouvoir offrir une médaille au public, de venir contraster notre dernière contre-performance, je pense que les gens étaient comme des dingues dans le puis c'est le sport en fait, tout simplement, quand le sport et ses
émotions.
Oui, quand t'es pour quelqu'un, tu te transcendes en fait. Il y a pas de oh si je crie trop fort, on va me regarder. Non, on s'en fout parce que tout le monde crie trop fort en fait.
On s'en fout royalement.
Ça. Puis il y avait le cop de l'équipe de France aussi qui était là, je pense, pour leur première compétition, qui était souvent sur le 5-5, qui est venu nous encourager sur le 3-3. Et donc je pense que ça, c'était voilà, enfin c'était la recette parfaite pour que l'événement, en tout cas d'un point de vue ambiance, soit réussi quoi.
C'est clair. Comment aujourd'hui tu te sens vis-à-vis de toutes ces années de 3-3 maintenant, voilà, t'as emmagasiné pas mal d'expérience. Est-ce que t'es à l'aise aujourd'hui avec cette discipline ?
Oui, je suis à l'aise. Plus je la pratique et plus je progresse. Et un peu comme le 5-5 d'ailleurs. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le fait d'en faire depuis un petit peu moins longtemps, on a certainement une meilleure marge de progression. Et je trouve qu'en plus, aujourd'hui, on met les moyens et comme aussi les personnes et l'environnement dans lequel on est se professionnalise et devient de plus en plus expert, forcément, on passe toujours encore des caps. Et donc, moi, je suis très à l'aise avec discipline. Je deviens de plus en plus à l'aise de passer de l'une à l'autre sans pour autant que ce soit trop compliqué pour moi. Je m'adapte de mieux en mieux au ballon. Quand je reviens en 5-5, maintenant, je sais comment gérer mes fautes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Quand j'arrive au 3-3, alors j'ai toujours évidemment ce temps où je dois m'adapter au cardio, mais ça vient naturellement. Et en fait, aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est plus de perdurer et d'enchaîner les doubles saisons plutôt que de me dire comment je vais faire pour m'adapter au 3-3, quoi.
Ouais, je vois clairement ce que tu veux dire. Et c'est un exercice qui, avec la pratique, comme tu l'as dit, deviendra un peu plus simple, mais... avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tu as ce recul pour pouvoir éviter de se mettre une certaine pression, une pression de résultat, une pression de flexibilité face à la compétition où tu pourrais te trouver. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est quel regard poses-tu sur le basket féminin en termes de promotion ? Elle n'est pas piégée, cette question. Hein. C'est vraiment en toute sincérité.
Je pense évidemment du basket féminin, mais du sport féminin en général.
Oui, bien sûr.
Je pense évidemment qu'on a encore du boulot à faire pour qu'on soit au même titre que nos homologues masculins, autant médiatisé, avoir autant de reconnaissance et aussi que dans l'imaginaire des gens, il y ait une espèce de respect de ce qu'on fait. Parce que ce qui n'est pas le cas, je pense, dans la conscience collective de chacun, je pense qu'il y a encore des personnes, peut-être qui se font de plus en plus rares, mais qui pensent que des femmes, c'est pas aussi spectaculaire que les hommes, ou qu'ils imaginent qu'il y a peut-être moins de travail, etc.
Je les invite à faire vos prépas physiques, toutes ces personnes-là. Je les invite. Hein.
Après, en vrai, je pense aujourd'hui que vraiment le regard change et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour le sport féminin et d'autant plus, je trouve qu'on est vraiment chanceuse quand je regarde toutes les autres disciplines pour échanger avec pas mal d'athlètes d'horizons différentes, de disciplines différentes. Je trouve que nous, dans le basket féminin, on est quand même bien lotis parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des efforts qui sont mêlés. Là, je vois par exemple le travail de fou que fait la com sur la LFB. Il y a plein de médias comme Thaïsis, je pense à Noé par exemple, démocratise. Voilà, aujourd'hui, je suis sur le podcast de Off Court. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour le basket féminin et qui en parlent. Voilà, aujourd'hui, on a des rediffuseurs. On est sur Squeak.
Squeak.
On est aussi sur YouTube, accessible à tout le monde. Enfin, je pense qu'on vient quand même de loin. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je pense, tu vois, rien que dans le monde professionnel, je trouve que voilà, les 12 clubs de LFB aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, quand moi je me revois 10 ans en arrière quand j'ai commencé ma carrière, il y avait des choses qu'aujourd'hui n'existent pas. Tu vois, par exemple, des montages financiers pour payer les joueuses. Je veux pas dire qu'il y a pas plus de magouilles, c'est pas ça.
C'est un modèle économique, hein.
Voilà, exactement. Le modèle économique, je pense qu'il s'est quand même vachement solidifié. Il a traversé aussi des crises telles que le Covid.
Ouais, évidemment.
Je pense vraiment que, qu'on est sur la bonne voie, mais que c'est pas suffisant. Ouais. Voilà, si je devais résumer ce que je pense. Mais je pense, aujourd'hui, on est dans un environnement où on parle tellement de choses négatives, on pointe du doigt ce qui ne va pas. J'ai plutôt envie d'axer mon discours et de pointer sur ce qui va et remercier les acteurs et les actrices qui s'investissent au quotidien pour que le basket féminin et le sport en féminin, de manière générale, soient mis en lumière, même s'il y a encore beaucoup de travail. Aujourd'hui, par exemple, si je vois le rugby féminin, les filles, elles sont même pas professionnelles.
C'est vrai.
Ça, je trouve ça fou. Elles prennent des congés dans leur métier de base pour participer à la Coupe du Monde, pour représenter la France. Moi,
c'est
ça
fou.
Me dépasse ça aujourd'hui.
C'est
parce
fou.
Que
c'est fou. Parce qu'on, déjà dit, on parle même pas d'amateurs. On parle pas d'amateurs. On parle de professionnels, même si que dans le nom. Parce que là, elles se retrouvent obligées à poser des congés pour vivre une expérience. Ok, c'est une expérience qu'elles ne revivront pas peut-être, mais c'est dingue qu'elles doivent faire des sacrifices financiers pour pouvoir pratiquer cette compétition et représenter la France. Mmh. Et on parle de France, je pense que ça se passe dans pas mal de monde. Cette différence qu'il pourrait y avoir entre le sport masculin et féminin, où il serait normal pour les filles qu'elles payent de leur poche, je suis désolé, pour faire une compétition internationale et que les gars puissent aller tranquille sans aller chercher le moindre sponsor. Ça, c'est dommageable et c'est dérangeant. Ça me gêne vraiment.
Ouais, c'est enfin voilà, on a donné un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu alertantes. On peut aussi voilà, là on parle du sport féminin, mais on peut aussi parler par exemple des para-athlètes, je pense aussi.
Ouais, exactement, il faut le dire, il faut en parler.
Ouais, c'est des choses comme ça aujourd'hui où on sait qu'il y a encore du boulot à faire pour rien qu'en point de vue médiatisation, reconnaissance, schéma économique, environnement économique, etc. Mm-hmm. etc. Donc mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont faites et qu'il faut les encourager et que ça continue. Quoi,
comme tu l'as dit, il faut dans cette période qui est compliquée où on pointe que les choses négatives, pointer le côté positif des choses est très très intéressant et pertinent. Et c'est vrai que il y a longtemps de cela, la communication, la visibilité était très 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 compliquée et qu'aujourd'hui tout ce qui peut être fait autour de l'environnement féminin est plutôt positif, ça va vers de l'avant. On n'a pas encore atteint le maximum du potentiel, mais ça va vers l'avant et ça m'amène à poser cette question. Qu'est-ce qui pourrait faire que on va rester dans le basket, une basketteuse féminine devienne un peu ce visage, cette représentation. Je dis pas que ça a une importance, mais des fois, je me dis, pourquoi on n'a pas ce visage féminin qui peut représenter le basketball féminin auprès des plus jeunes ? C'est une disserte, hein ?
Ouais, parce que j'ai envie de dire, après, c'est difficile pour moi de prendre vraiment du recul parce que tu veux, comme je suis en alerte, comme je connais les gens, comme voilà, je suis au sein aussi de l'équipe de France, un peu proche de la fédération qu'un simple licencié, entre guillemets. Je vois un peu ce qui est mis en avant et tu vois des visages comme Marine Johannes, Valeria Nayali, Laetitia Guapo en 3-3. Enfin, y a quand même des visages qui ressortent et qui émergent.
Bien sûr.
Et qui sont mis en avant auprès des jeunes. Mais après, est-ce que ça fait écho jusque dans le grand public ?
C'est ça où je veux en aller.
Oui, quand tu prends quelqu'un, jusqu'à encore aujourd'hui, je pense qu'à part Céline Dumerc, comme ils l'appellent les gens, Céline Dumerc, du coup, à part cette joueuse-là qui est citée, et encore, c'est difficile des fois de retrouver le nom pour la personne, c'est vrai qu'ils ont une connaissance pauvre du basket. Après, il y a peut-être Marine aujourd'hui qui, comme elle traverse l'outre-Atlantique et qu'elle performe là-bas, mm-hmm. je pense que ça peut parler de donc d'elle forcément et donc du basket féminin. Mais c'est vrai que je pense que dans c'est plus facile de citer des Tony Parker, des Wemby maintenant, pour quelqu'un qui ne connaît rien au basket, plutôt que citer des grandes joueuses qui sont comme par exemple Sarah Michel, Sandrine Gruda, enfin des joueuses qui sont là depuis aussi le début et qui ont un palmarès à qui n'ont strictement rien à envier à certains de leurs homologues masculins. Quoi.
Après,
je sais pas.
Je pense que c'est une chose qui va aller avec le temps vers l'avant. Il y a quand même des prémices que je trouve plutôt intéressantes. Aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir sorti, par exemple, un modèle de basket féminin.
C'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est dingue. C'est ouais. dingue, tu vois. Aujourd'hui, en 2023, on a notre premier modèle de basketball, de choses féminin.
C'est vrai. Il y a du mieux, mais si tu veux rentrer aussi dans ce débat-là, tu vas te dire ouais, il y a une signature chose de Brianna Stewart, de Sabrina Ionescu.
Exact.
Mais par contre, aujourd'hui, la meilleure joueuse en WNBA, qui est le mieux payée, elle est moins bien payée que la mascotte de la plus basse.
Clairement.
Il y a des choses mieux, mais en fait, je pense malheureusement, et c'est une triste réalité, je pense que les gens aimeraient faire beaucoup plus. Mm-hmm. Aujourd'hui, la réalité économique, et ça veut dire que il faudrait changer en fait, le regard sur la femme, le regard sur le sport féminin, et ça, c'est l'éducation à des tout petits. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est comme ça, enfin, je m'avancerai pas trop si je dis qu'aujourd'hui, à la fédération, ce qui rapporte, c'est l'équipe de France masculin.
Non, tu t'avances pas trop.
C'est une réalité. Et donc, les partenaires qui investissent, ils investissent via cette équipe-là, évidemment aussi pour toutes les autres, mais ça veut dire qu'il faut changer la conscience collective, en fait, des gens qui vont devenir des chefs d'entreprise, qui vont devenir et qui se rendent compte que le sport féminin peut aussi leur rapporter et que c'est important d'investir là-dedans. Et ça commence à venir, mais voilà, ça reste factuel, hein. Aujourd'hui, l'économie, elle existe grâce au sport masculin.
En tout cas, j'espère que, s'il y a du, comme on l'a dit, il y a du changement, j'espère que ça va continuer et qu'à un moment ou à un autre, on va pouvoir dire que les filles, peuvent regarder les garçons droit dans les yeux avec tous les avantages qu'ils avaient et que vous aurez. Moi, en ce moment, tu vois, je vois beaucoup de petites. Et je leur parle souvent du basketball féminin, vraiment des petites, des bébés, des poussines, des benjamines, et je les invite souvent à regarder le basket féminin, et c'est dingue comment elles reviennent le lendemain en me disant, mais Mousse, j'ai regardé du 3-3, il y a une fille qui s'appelle, ils disent Mep, mais c'est vraiment pas pour te lancer des fleurs, hein. Je dis oui, Marie-Ève Pagé, mais elle joue trop bien, elle est dure, elle marque des paniers, et après quand elle marque, elle crie. Franchement, j'aurais dû choper une vidéo, te l'envoyer. Et c'est trop mignon parce que ces petites-là, elles commencent à regarder le basketball féminin. Elles commencent à regarder le basketball féminin et elles demandent d'avoir du basketball féminin avec les opérations qui commencent à avoir en place un peu sur... moi, je dis de mon niveau sur Paris, avec récemment un match NCAA qui a rassemblé beaucoup de monde. Le Paris Basket qui se fusionne avec le ministère pour avoir sa propre équipe féminine. Des matchs de N1. C'est super bien de pouvoir valoriser et de communiquer sur le sport féminin. Et à nos jours, avec les réseaux sociaux, ça devrait être facile.
Mais c'est ce que je dis, c'est que moi, contrairement à certaines joueuses, par exemple du centre de formation ou quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, en fait, on a accès à ces matchs, on a accès grâce à Internet et grâce au réseau, on a accès à ces informations et que si on veut vraiment regarder des matchs, on peut. Chose que moi, je n'avais pas forcément quand j'étais un peu plus jeune. Mmh. Et aussi, j'étais pas forcément issue d'une famille de basketteurs. Donc, c'est vrai que le basket, c'était très bien quand moi je jouais, mais j'ai pas eu cette culture ou cette connaissance de regarder les matchs et tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a quand même plein de jeunes filles qui regardent les matchs. Image flagrante, je me rappelle à Mont-de-Marsan, mais il y a pas très longtemps. Donc, c'était le match des champions. Donc, il y avait Basketland contre... contre le l'ASVEL. Et donc, en fait, j'étais à Mitterrand parce que je regardais un match du Stade Montois masculin. Mmh. Et il y avait en bas les filles du centre de formation. Et moi-même, d'ailleurs, on était toutes avec nos téléphones en train de suivre le match de Basketland. Et c'était marrant de voir qu'en fait, même si on fait autre chose, on a quand même cet accès facile à des matchs.
Clairement.
Parce que c'est retransmis sur YouTube, parce que c'est accessible. Et ça c'était pas le cas avant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ma grand-mère, mes parents, ils peuvent regarder tous les matchs, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé le basket, quoi. Mmh. Donc, et moi, ça, je trouve ça cool qu'il y ait cette démocratisation de masse à l'accès aux médias, au sport de manière générale. Alors, évidemment, de manière générale, les réseaux sociaux, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, dans ce cas-là, je trouve pouvoir accéder, regarder par exemple la WNBA, alors sans jamais mettre un pied aux États-Unis, c'est pas cool de pouvoir avoir l'opportunité de regarder tout ça.
Ah non, clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Et, comme je te dis, moi j'ai juste envie que ça continue et que ça évolue et que je puisse voir des gamines encore s'éclater et pouvoir s'identifier à vous, que ce soit toi, Laetitia, Sandrine, Marine, toutes ces joueuses qui font que le basketball français aujourd'hui est une réussite et que est un vecteur social. C'est l'importance du vecteur social et ces gamines qui au travers de vos actions, vos investissements peuvent s'y reconnaître. Je vais un peu revenir sur le 3-3. Vous voyagez beaucoup, vous faites un tournoi là, on vous revoit dans un autre tournoi là-bas, mais les cadres sont magnifiques.
C'est ça, c'est vrai qu'on voyage beaucoup, mais bon, j'ai envie de dire, quand on est en club, on voyage aussi beaucoup.
Mmh. Mais en termes de cadre.
Oui, ça c'est sûr. C'est une particularité du Pro-3, c'est qu'aujourd'hui, on joue dans des spots qui sont soit beaux, soit incroyables, soit atypiques. Et ça, c'est vraiment une caractéristique du 3-3. Et c'est ça aussi qui fait tout son charme. Voilà, aujourd'hui, j'ai joué dans des centres commerciaux, j'ai joué dans un cirque. J'ai joué au pied de la Tour Eiffel, j'ai joué sur la plage, j'ai joué sur un port, j'ai fait plein de trucs. Après, il y a des trucs un peu moins glamour. J'ai joué sur un parking, j'ai joué dans une aréna, mais qu'ils avaient configurée un peu alors qu'elle était immense, hein, qui n'était pas forcément hyper adéquate. Enfin, mm-hmm. Voilà, j'ai fait des spots. Et il y a d'autres spots, je pense par exemple aux U23 qui avaient fait leur finale de Nations League. Elles avaient joué au Parlement. En Roumanie, donc c'est comme si nous on allait jouer dans le Palais d'Élysée, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable d'avoir l'opportunité pour un événement sportif de se retrouver dans des lieux qui sont cultes et typiques de la région ou de la ville dans laquelle on évolue, quoi. Je trouve ça fou.
Ah, c'est clair, mais moi, comme je pense tous les téléspectateurs, quand on est assis, la première chose qu'on voit, c'est toute la maintenance qu'il y a autour, le spot, les caméras, tout ce qu'il y a ensuite dans le commentaring. Franchement, on a l'impression de vivre l'événement de l'intérieur et c'est top, c'est vraiment top, c'est ce qui donne cette spécificité un peu au 3-3 où vraiment, pour les amateurs qui viennent et qui regardent ça, ce n'est plus un match, mais c'est plus un événement.
Non, c'est sûr, c'est un événement. Et après, ça dépend où c'est, où on est, mais généralement, sur les grands tournois, sur les gros tournois, que ce soit sur le World Tour masculin, même sur les World Women Series pour nous, quand on est en commun avec les garçons ou quand on est sur les compétitions internationales, type Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, il y a généralement... Les villes, elles s'investissent du projet et elles ne font pas que le tournoi de basket. C'est-à-dire que il y a des animations, c'est ce que tu dis, c'est l'idée en fait de partager un moment plus que un simple match de basket, enfin plusieurs matchs de basket 3-3. Mmh. C'est vraiment l'expérience, c'est la possibilité, voilà, de généralement ils font des fois il y a des espèces de festivals, c'est-à-dire que toute la semaine il y a des animations, il y a l'opportunité de pratiquer, voilà, il y a des terrains qui sont à côté pour que les gens puissent faire, il y a une vente de boutiques, enfin il y a vraiment des choses qui sont organisées autour pour que les gens, en fait, ils soient pas là pour regarder juste 20 minutes de match,
ouais,
mais qu'ils soient vraiment là pour pour plus, en fait, pour découvrir en fait la culture aussi un peu urbaine derrière, parce que voilà, il y a un DJ, il y a des animations, il y a des concours, type concours de dunk, concours de tir, enfin voilà, c'est vraiment tout ça qui est autour du 3-3, et c'est pas que le simple fait de jouer, quoi.
Un village sportif qui te permet de, si tu as envie de venir en famille, de rester là toute la journée.
Carrément, parce qu'il y a de quoi toujours se restaurer un peu. Enfin voilà, c'est. Alors généralement l'été il fait toujours un peu chaud, donc c'est vrai que à un moment donné, tu peux pas rester tout le temps sur place. Mais c'est vrai que quand c'est supportable, oui. Je pense que. Puis même généralement c'est toujours dans un endroit qui est en cœur de la ville, donc. Dire que bon, les. Tu te dis, je vais au café du coin, et c'est tout à fait possible, quoi. C'est pas quand t'es dans une salle de basket 500. T'as autour du spot. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment un peu spécifique au 3-3, et je pense qu'il plaît en fait aux gens et aux familles, quoi.
Ah, joie. Non, franchement, personnellement, moi j'invite tous les auditeurs de Off-Court à de s'intéresser au 3-3. Comme tu l'as dit, il y a plein de plateformes qui nous permettent de le voir. Il y a Squeak, il y a YouTube qui vous permet de voir des matchs. Et t'as plein d'autres plateformes. Et franchement, c'est une compétition qu'on adore. C'est surtout, elle est tellement rythmique. Et il y a tellement des scénarios comme pas possible. Déjà que le basket en soi nous réserve des scénarios de dingue, mais le 3-3, c'est abusé. Tu peux te retrouver à moins 4 et sur deux stops et un buzzer. T'en sortir comme ça. Et bon, je pense.
Ça
va trop vite. Et à la fin, quand je vous vois à la fin, en train de tirer la langue, je me dis, en fait, ouais. On a beau dire c'est du 3-3, c'est du demi-terrain, mais il n'y a pas de répit. Il n'y a vraiment pas de répit.
Non, parce qu'en fait, par exemple, au 5-5, sur 2 minutes, tu vas avoir forcément. Aller du temps, même sur une position de 24 secondes. Quand ton meneur, il monte la balle et que toi, t'es déjà placé, t'es sur place, tu marches. Voilà, il y a des lancers francs, il y a des coups de sifflet. Alors qu'au 3-3, c'est vraiment un enchaînement d'actions. Mmh. Les ballons morts, ça dure vraiment quelques secondes et tout est fait pour que ça évite les positions de secondes. C'est beaucoup plus permissif, donc l'arbitre, il arrête moins de jeu. Par exemple, au 3-3, les arbitres, ils attendent souvent de voir si tu marques ou pas. Si tu marques, il a joué, même s'il y a faute. Évidemment, ça dépend quel type de faute. Hein. Mm-hmm. Mais s'ils voient, ils estiment que la faute a empêché de marquer, là, ils vont siffler. Mais ça veut dire que tout est fait pour que le jeu aille vite, en fait.
Ouais,
et que,
pas de temps d'arrêt, quoi.
Voilà, il soit. Et du coup, en fait, nous, on vit ça pareil, quoi. Donc, ça veut dire que pendant 1 minute 30, des fois, tu vas enchaîner sans jamais t'arrêter, ou alors tu vas avoir des pauses de 3 secondes le temps que tu fasses le check ball, que la balle qui est sortie soit remise sur le terrain.
Ouais.
Alors qu'au 5-5, c'est beaucoup plus long, entre guillemets, les
évidemment.
Et c'est pour ça que c'est super intense et qu'à la fin, on tire la langue. Ouais, et que, en 2 matchs dans la journée de 10 minutes, ça tabasse bien, quoi. On n'a pas à faire plus, c'est pas facile.
T'as déjà hâte d'être à la récup, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, tu sais que le soir, tu vas bien dormir, quoi.
Ouais, j'imagine, c'est clair. Et je vous encourage vraiment. En tout cas, nous, on se dirige vers la fin. Déjà, j'ai envie de te dire merci pour le temps que tu nous as accordé. Et j'ai envie de te poser cette dernière question. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour 2024?
Le meilleur, tout simplement.
Ah bah, je te le souhaite de tout cœur, mon mari. Je le souhaite à toute l'équipe féminine. Vraiment, ce gros roster que vous êtes. Un big up à Karim. Un big up à Karim et à tout le staff qui vous entoure et qui vous met dans les meilleures conditions pour pouvoir vivre ces moments intenses et dans les meilleures des conditions. Moi, je suis vraiment heureux de t'avoir eu sur le micro et d'avoir pu échanger avec toi. C'est quelque chose que je vais réécouter parce que c'est super intéressant et c'est sans filtre et c'est un naturel monstre et j'adore ça. C'est carrément, si tu veux, excuse-moi, après c'est normal, mais sur le terrain on voit la guerrière que t'es. Tu te dis, attends, mais est-ce qu'elle va être comme ça derrière le micro? Et franchement, c'est un plaisir monstre d'avoir pu échanger avec toi.
Je mets tellement mon énergie sur le terrain que je suis un agneau.
Je valide. En tout cas, vous êtes bien fofolle sur les réseaux sociaux quand vous faites vos unboxing.
Ceci dit, je ne suis pas la pire, je trouve. Je vais pas prendre la balance, mais ce n'est pas moi la pire.
Non, j'ai vu que tu étais un peu en retrait. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup Marie. Je te souhaite bonne chance et une bonne fin de journée.
Ben merci à toi, merci pour l'invitation et j'espère que le podcast va vous plaire et n'hésitez pas à écouter Off Court et tous les autres podcasts.
Ah, merci pour le big up, merci beaucoup. Ciao, ciao.
Ciao.